Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn.
Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 3. Nous œuvrons chaque jour à notre niveau pour visibiliser nos familles, car c'est ainsi, en partageant notre bonheur et notre amour, que nous contribuons à éveiller les consciences et à faire changer les opinions. Certains d'entre nous ont une visibilité plus importante. Ils sont des personnages publics et voient leur vie privée être la source de grandes discussions et de jugements à l'emporte-pièce, aussi bien sur une serviette de plage qu'à la machine à café. Et plutôt que de se préserver par crainte des trolls et autres esprits critiques, comme nous, ils vivent au grand jour leurs rêves de famille et normalisent nos quotidiens. Christophe et Ghislain ont fait ce choix-là, celui de raconter leur parcours de GPA, de montrer leur vie en partageant chaque jour les petits événements et les grandes découvertes autour de leur fils Valentin. Ils militent ainsi, à leur façon, en faisant de la pédagogie ordinaire au travers de leurs comptes sur les réseaux sociaux. Évidemment, ils se heurtent autant que nous, si ce n'est plus, à des réflexions douloureuses et dégradantes. Et pourtant, il leur a semblé évident de se livrer par écrit, pour véhiculer un message d'espoir, celui de dire aux plus jeunes que l'homosexualité n'est pas antinomique avec la parentalité, celui de raconter aux futurs parents le rythme et la faisabilité d'un parcours de GPA, celui de partager avec les parents un quotidien ordinaire. Leur livre, Fils à papa, est sorti le 7 octobre aux éditions Plomb, tout en confidence et en émotion. Je vous remercie encore, Christophe et Ghislain, pour votre confiance et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christophe, bonjour Ghislain.
Bonjour, bonjour.
Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous retrouver en enregistrement ce soir. J'étais déjà rentrée en contact par téléphone avec Ghislain suite à l'enregistrement avec Virginie, la mère porteuse, et on a eu un bon feeling, une bonne accroche. Et donc, vous avez eu la gentillesse de me proposer un entretien avec vous. Donc, je vous en remercie.
Avec plaisir.
Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et me présenter votre famille ?
Alors, je m'appelle Christophe, je suis marié avec Ghislain depuis maintenant 3 ans. Voilà, vous m'avez peut-être déjà vu à la télé ou entendu à la radio, parce que je fais donc un métier public. Et puis, on a la chance d'être papa du petit Valentin depuis bientôt 2 ans maintenant. Il est né le 9 novembre 2019, grâce à une mère porteuse aux États-Unis.
D'accord. Je ne vais pas en dévoiler pour le moment plus. On va dérouler votre histoire, on parlera de la suite après. Comment vous vous êtes rencontrés ?
Comment on s'est rencontrés ?
Non, j'ai pas besoin des détails. Hein.
Non, ben on s'est rencontrés chez des amis communs. Au début, on n'envisageait pas forcément quelque chose de sérieux. Et puis, finalement, ça fait quand même 10 ans qu'on est ensemble.
Et oui. On a appris à faire connaissance et puis on s'est rendu compte. Moi, ça faisait un moment que j'étais célibataire. Ça faisait 6 ans que j'étais tout seul. J'avais été 10 ans avec un mec avant. Mm-hmm. Et Et Ghislain, je n'y croyais plus trop, j'avais plus confiance. Je me disais, bon, bah, je resterai célibataire, c'est pas grave. Et c'est au moment où tu n'y crois plus que l'amour vient parfois toquer à ta porte, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé.
C'est fou quand même, hein, comme dans des situations comme ça, on peut vite perdre confiance alors qu'il n'y a aucune raison de perdre confiance.
Mmh.
Et du coup, j'en déduis, vu que ce n'était pas parti pour être sérieux, que vous n'avez pas parlé d'enfant tout de suite.
Ah bah non, non, c'est pas le... En plus, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas forcément le premier thème de discussion, d'autant plus que Ghislain est quand même beaucoup plus jeune que moi. Il a 12 ans de moins que moi. Quand je l'ai rencontré, il était vraiment très jeune et ça faisait partie des choses qui m'ont fait hésiter parce que je me suis dit, ouais, il est trop jeune, on n'aura pas les mêmes centres d'intérêt, on n'aura pas forcément les mêmes envies. Et quelque part, dans un coin de ma tête, il y avait aussi... voilà, je commençais vraiment à avoir de plus en plus envie de fonder une famille, de devenir papa, et je me disais, bon, voilà, il en aura peut-être pas forcément envie, il était jeune, donc c'est fait partie des questions que je me posais au début, en tout cas.
Donc toi, c'était déjà dans un coin de ta tête, enfin, toi, tu as voulu être papa très tôt.
Ah oui, oui, c'était depuis très très longtemps, ce que je raconte dans le livre, mais c'est vrai que d'aussi loin que je me rappelle, tout gamin, j'ai toujours adoré les enfants, et... je m'imaginais pas mon avenir sans pouvoir fonder une famille, sauf que en se découvrant homo, notamment quand j'étais jeune, puisque j'ai 44 ans, donc c'était dans les années 80, on n'avait aucune idée que l'homoparentalité puisse être possible. Donc pour moi, c'était un rêve inaccessible.
Oui,
et puis ouais. Après, j'ai fait en sorte que ça le devienne, mais au départ, en tout cas, ouais, c'était. Je me disais que je ne pourrais jamais devenir papa.
C'est vrai que notre génération, pour ça, c'était vraiment la condition sine qua non, quoi. C'est ok, je vis avec un homme quand je suis un homme ou avec une femme quand je suis une femme, mais je sais que potentiellement je fais une croix sur la parentalité.
Ouais, c'était très dur ça. Et c'est vrai que bah, y a des gens d'ailleurs qui, à l'époque, n'assumaient pas leur homosexualité, pas forcément par peur du jugement des autres, mais aussi parce qu'ils avaient envie d'avoir une famille.
Oui,
et du coup, qui se mariaient avec une femme, même s'ils n'étaient pas forcément très attirés par les femmes, mais ils avaient quand même une famille, voilà.
Mm-hmm. Et c'était ça, c'était le choix à faire. Et toi, Guilain, du coup, la parentalité, ça te parlait dès là ?
Moi, ce n'est pas tellement une question que je m'étais posée. C'est vrai que quand on s'est rencontré avec Christophe, moi, j'avais 21 ans, je sortais de mes études. Moi, j'ai plutôt bien vécu mon homosexualité, surtout pendant mes études supérieures. Et voilà, j'avais envie d'une relation posée, mais c'est vrai que je ne m'étais pas projeté dans un modèle familial. Le désir d'enfant, en fait, je ne m'étais jamais posé la question. Donc voilà, et puis il n'y avait pas encore le mariage pour tous. Il y avait tout un cadre, on va dire, sociétal qui amenait pas forcément à cette pensée-là. Donc non, moi, je ne m'étais pas posé la question. Et c'est le déclic qui est vraiment venu avec l'adoption du mariage pour tous.
Après, c'est venu un peu naturellement. C'est-à-dire que je ne lui ai pas dit... tu sais, j'ai envie de devenir papa, mais en discutant, j'ai pas le sentiment d'avoir un jour t'avoir annoncé, t'avoir dire, tu sais, j'ai vraiment envie.
Non,
de...
je pense que là où voilà. On s'est projeté, c'est vraiment quand il y a eu le mariage pour tous.
Par exemple,
on s'est mobilisé pour que la loi soit votée, et à partir de là, oui, on a commencé à l'aborder, on a commencé à se projeter dans un cadre, un projet parental et familial.
Ça a ouvert le champ des possibles, effectivement, et là, ça a ouvert des portes et des espoirs. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être y arriver, voilà.
Alors, c'est vrai que ça l'a ouvert pour beaucoup, hein. Enfin, clairement, encore plus pour nous, les femmes, puisqu'il y avait une ouverture potentielle de la PMA.
Oui, qui a mis du temps à arriver, finalement.
Voilà, qui a mis du temps à arriver, mais on tient quelque chose. Mais c'est vrai que pour vous, les papas, moi, ça m'agace encore plus de voir que même maintenant, en avançant dans la société, la GPA n'est toujours pas envisagé dans les débats.
Non, mais malgré tout, les choses avancent dans le bon sens, je trouve. C'est-à-dire que on en parle de façon moins caricaturale, plus réaliste. Je pense que la visibilité d'un certain nombre de familles y a contribué. Je pense que le livre de Marc-Olivier Fogiel, il y a 3 ans et demi ou 4 ans, a déjà donné un premier coup de projecteur là-dessus. Et puis, il y a d'autres familles qui ont communiqué sur leur parentalité. Il y a eu Jarry, qui a ses petits jumeaux. Il y a eu Alex Good aussi, qu'on parle des animateurs télé. Mais en tout cas, il y a des gens. Et on s'est dit, tiens, voilà, il est possible d'être papa au pluriel. Ça existe, en tout cas. Voilà. Et la visibilité, c'est hyper important.
Oui, c'est de la pédagogie, quelque part, et du militantisme.
Exactement.
Complètement. Et pour en revenir, du coup, à l'accès, enfin, au début de votre réflexion sur la parentalité, est-ce que vous aviez une idée arrêtée du comment, ou pas du tout, ou vous êtes orienté sur plusieurs pistes?
Non, on s'est posé les questions un peu comme tout le monde, un peu comme la société aujourd'hui peut le faire, c'est-à-dire comment devenir papa ou parent. On a envisagé évidemment l'adoption dans un premier temps. On savait qu'il y avait la GPA aussi qui était possible. L'adoption, on a assez rapidement mis ça de côté parce qu'il y avait eu plusieurs scandales où on savait que l'attribution des enfants potentiellement adoptables n'était pas confiée aux homosexuels, que d'ailleurs ce soit des hommes en couple, des hommes célibataires, des femmes, des couples de femmes, pour des raisons d'ordre moral, on savait qu'on n'était pas prioritaire.
C'est-à-dire qu'avec effectivement l'adoption du mariage pour tous, ça ouvrait la potentialité d'adoption pour les couples homo, mais dans les faits, c'était quasi impossible. Ça allait toujours, ça a un peu progressé, c'est quelque chose qui avance tout doucement, mais c'est vrai que on met des années à avoir un agrément et après, c'est des années d'attente. Enfin, c'est déjà un parcours du combattant pour les couples hétérosexuels. Il y a assez peu d'enfants adoptables en France dans l'absolu. Donc, si vous rajoutez en plus le fait qu'il y ait un couple de garçons ou même un homme seul ou une femme seule, ça, on arrive sur des potentialités très, très, très réduites de réussir à devenir parent. Donc, ensuite, il ne reste plus que la GPA pour des couples de garçons.
Il y a une discrimination latente, en fait, dans le processus d'adoption pour les couples homosexuels, qui fait que, voilà, il y a l'autorisation légale, mais dans le réel, c'est un chemin de croix.
Donc, c'est ça, c'est la différence entre la théorie et la pratique, quoi. Donc du coup, effectivement, on s'est tourné vers la GPA. Ça faisait un moment que je me renseignais dessus, mais en cherchant un peu sur Internet, il y a à boire et à manger, comme on dit, un peu fait n'importe quoi. Et en fait, grâce à des amis, je parlais de Jarry tout à l'heure, l'humoriste Jarry, c'est lui qui nous a un peu expliqué comment lui il avait fait et qui nous a donné quelques contacts. Ça nous a permis, et puis avec d'autres amis qu'on avait, d'autres gens qu'on a pu côtoyer, par le bouche à oreille, on a un peu mieux compris comment ça se passait. Et du coup, voilà, après, on va avoir le temps de l'expliquer, mais on est passé par une agence aux États-Unis.
De se lancer dans l'aventure. Voilà,
parce qu'il y a des agences spécialisées qui existent aux États-Unis pour accompagner les parents dans ce parcours-là.
Oui, c'est vrai que de ce que tu décris dans ton livre, donc je vais revenir après sur ton livre, de ce que tu décris dans ton livre, ça a l'air d'être un accès extrêmement confidentiel en fait encore.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, il y a ces agences ont pignon sur rue aux États-Unis, mais en France, il n'y a aucun site vraiment qui référence, enfin il n'y a même aucun site tout court qui référence ces agences, il y a peu d'explications, c'est assez... mystérieux, à vrai dire. On a l'impression parfois, quand on commence à se renseigner dans ce milieu-là, qu'on est face à une espèce de... C'est quelque chose d'initié. C'est un peu ça. Et c'est vrai que le bouche-à-oreille aide. Et en l'occurrence, l'agence par laquelle on est passé, il y a une coordinatrice française qui, du coup, qui travaille aux États-Unis, mais qui, du coup, parle français et qui explique beaucoup de choses pour des Français. Culturellement, les États-Unis, c'est extrêmement différent sur tout le système médical. On aura l'occasion d'y revenir. Mmh. Et du coup, d'avoir une Française qui comprend les interrogations des Français, qui sont quand même assez spécifiques, c'est beaucoup plus facile, en tout cas. Ça nous a beaucoup aidé.
Oui.
Il faut bien comprendre, c'est vu qu'en GPA, en France, la GPA est interdite. Il n'y a pas de centre, entre guillemets, d'information, de documentation sur le sujet. Donc, c'est là où...
Ce serait interdit, c'est pas possible.
Voilà, ça serait considéré comme du prosélytisme, de quelque chose qui est illégal. Donc, c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire de vouloir se lancer dans un processus éthique, moral, clean, et en même temps d'avoir un défaut d'information. Donc, c'est vrai que ça, c'est une période assez compliquée, c'est-à-dire qu'on veut baliser les choses, les faire bien, et en même temps, on n'a aucun repère, aucune référence. Donc, d'où l'importance du partage d'expériences entre familles homoparentales qui sont passées par le processus de la GPA.
Oui, clairement. Et c'est tout l'objet d'ailleurs du podcast aussi, hein, c'est de pouvoir apporter, enfin ouvrir le champ des possibles, apporter toutes les possibilités. Et
oui, que les gens comprennent un peu comment les choses fonctionnent et surtout pour essayer de... nous-mêmes, on a découvert des choses tout au long de ces démarches et pour essayer quand même de tendre le cou à tout un tas d'idées reçues, de stéréotypes, de clichés souvent volontairement malveillants, relayés par des associations notamment, on peut parler de la Manif pour tous, mais il y en a d'autres, qui disent beaucoup de contre-vérités et même de fake news, volontairement malveillantes pour salir, entre guillemets, nos parcours et nos familles. Et du coup, c'est hyper important d'expliquer ce qu'est une GPA éthique, ce qu'on a fait aux États-Unis, que la femme n'est forcée en rien, que les choses sont faites de manière légale, encadrée, sécurisée, respectueuse vis-à-vis des femmes. Et bon, voilà, c'est tous ces aspects-là qui me tenaient à cœur, aussi pour... je pense, Ghislain, tu seras d'accord avec moi, mais aussi pour notre petit garçon, pour pas qu'on salisse, entre guillemets, son histoire et son parcours, et qu'on salisse pas non plus Whitney, la femme qui a porté notre petit garçon, parce que on a lu des choses assez dégueulasses sur les réseaux sociaux, quand je disais c'est pas une mère porteuse, c'est une esclave que vous avez utilisée, ou ce genre de choses. C'est d'une violence pour nos familles, pour nous, pour
moi, j'ai et puis pour elle aussi,
et pour ça, elle surtout.
Ouais. On s'est fait écho auprès d'elle de ce qui pouvait se dire en France, et sa réaction a été assez perturbante, et elle était assez perturbée.
Elle était très blessée.
De toute cette violence qu'il pouvait y avoir. Et c'est pour ça qu'on aura l'occasion d'y revenir, je pense, dans l'émission. C'est qu'on, dès qu'il est possible de lui donner la parole, on veut qu'elle puisse prendre la parole. On n'est pas là pour parler à sa place. Nous, on est là pour témoigner de notre expérience dans le processus d'une GPA. Mais il est important qu'elle puisse prendre la parole. On n'est pas la voix des mères porteuses. Tu as eu l'occasion, toi, dans un autre podcast, de donner la parole à une femme porteuse. France 2, maintenant, l'a fait récemment avec les maternelles. Et c'est important, et c'est bien qu'elle puisse, elle, prendre la parole. Parce que la parole d'un homme dans le processus d'une GPA sera toujours discréditée par des féministes ou par d'autres, d'ailleurs. Sauf que quand c'est une femme qui explique réellement pourquoi elle l'a fait, son sentiment, son ressenti, là, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de débat. Au bout d'un moment, on ne peut pas nier le libre arbitre de ces femmes, leur choix et leur volonté.
D'ailleurs, je lui ai consacré un chapitre entier dans le livre, sous forme de questions-réponses, et c'est elle qui m'a envoyé ses réponses, et c'est les questions, je pense, que les gens se posent pour mieux comprendre ses motivations, comment elle a vécu le parcours de l'intérieur, etc. Et elle répond de manière extrêmement naturelle, et t'as raison, voilà, on voulait vraiment lui donner la parole et la mettre en valeur.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces questions auxquelles elle répond, nous, évidemment, quand on s'est lancé au tout début dans le processus de la GPA, c'est des questions qu'on s'est posées et qu'on lui a posées aussi. C'est-à-dire que nous-mêmes, on était en quête d'une éthique absolue par rapport à ça. On ne voulait pas qu'il y ait le moindre doute.
On ne lui dit pas de malaise, surtout.
On lui demandait, de malaise. Il n'y avait pas de tabou, en fait.
On lui demandait régulièrement pendant la grossesse « Mais ça va, tu te sens bien ?»
Et même avant, d'ailleurs.
T'as pas peur de la façon dont ça va se passer après, quand tu vas accoucher, etc. Elle nous a beaucoup rassurés. Et c'est hyper intéressant de... C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand on part dans un projet comme ça, oui, on se pose des questions, oui, on a des doutes, oui, on s'interroge. Évidemment, c'est une démarche, ça prend du temps. C'est aussi un travail psychologique pour être prêt à vivre cette expérience-là. Donc, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, notamment un entretien psychologique aussi qu'on a vécu de la part de l'agence, parce que cette agence dit parfois à des parents, ce qu'on appelle des parents d'intention, c'est comme ça qu'on dit, intended parent en anglais. Parfois, elle leur dit, vous n'êtes pas prêt, revenez peut-être l'année prochaine. Là, vous n'êtes pas prêt à vivre cette expérience sereinement, etc. Donc, c'est très important.
Et ces tests psychologiques ont lieu aussi pour les mères porteuses. En fait, la GPA éthique, c'est ça, c'est un encadrement juridique et législatif, mais aussi médical et psychologique pour les deux parties. Pour s'assurer que l'aventure sera menée à terme.
Et que ce soit bien pour tout le monde, que tout le monde le vive bien, en fait, de manière épanouissante.
Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est la partie qui est, à mon sens, en tout cas sur les États-Unis, qui est la plus attirante, je dirais. On parle souvent de GPA éthique. Clairement, les États-Unis sont les pros de la GPA éthique.
Ça fait une trentaine d'années que cette pratique existe, et du coup ils ont beaucoup de recul, ils savent comment. Il faut bien préciser, c'est une des choses qu'on raconte toujours. Alors je pense que les gens qui écoutent tes podcasts sont peut-être un peu plus informés que d'autres, mais aux États-Unis, ce sont deux femmes qui interviennent. Il y a d'un côté une donneuse d'ovocytes et de l'autre côté une femme qui porte l'enfant. C'est-à-dire que ça n'est vraiment pas la même femme. Il y a une différence génétique, elle ne porte pas son enfant, mais un embryon d'une autre, avec qui a été fabriqué et conçu avec une autre femme. C'est important de bien expliquer.
Oui, tout à fait. Et du coup, pour revenir justement à cette explication, en fait, là, vous avez un peu détaillé tout ce qui arrive dans le processus. Si on remet les choses un peu dans l'ordre, vous l'avez d'ailleurs plutôt traité dans l'ordre. Donc, en fait, vous avez commencé par être mis en contact avec un intermédiaire de l'agence.
Oui.
Et la première
étape... La fameuse
étape,
Bernadette française dont je parlais.
Ouais. Bernadette, j'avais bien retenu. Elle a pas un nom... elle a un nom...
Non, on s'en rappelle de son prénom. c'est un personnage, Bernadette. Hein,
je pense qu'elle colle bien avec son prénom, de ce que vous en dites. Donc du coup, vous avez d'abord eu ce contact avec Bernadette, qui quand même est assez tatillonne, soyons clairs. Donc elle ne donne pas le passe-droit à tout le monde d'avancer plus loin.
Et ce qui est rassurant aussi, du coup.
Oui, Bien sûr.
Oui, c'est-à-dire qu'elle fait déjà une première sélection, un premier tri, entre guillemets. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui font ce type de démarche, beaucoup de parents possibles. Et du coup, comme il y a énormément de demandes, il y a une espèce de goulot d'étranglement aussi. Et donc, il faut sélectionner. Mais ce n'est pas une sélection, pour le coup, qui se fait sur les moyens financiers, mais qui se fait aussi sur la motivation, sur comment on sent.
Mais c'est vrai que Bernadette a un rôle crucial. C'est elle qui valide le sérieux du projet. Mmh. Et ça, c'est indispensable. Quand on se lance dans cette aventure, il faut avoir les reins solides.
Et qui t'explique aussi pour que tu comprennes mieux comment ça se passe. Et tu lui poses des questions souvent, parce que il y a eu des allers-retours au début sur les questionnements, parce qu'elle m'envoyait des documents, je comprenais pas toujours tout. Et elle t'accompagne dans ce processus.
Oui, ouais, c'est très, très important d'avoir une personne en soutien qui connaît
les deux parties. Et le fait que soit francophone, c'est quand même super, parce que c'est déjà difficile. Et avec la distance, et tout en anglais, c'est parfois un peu compliqué.
Oui, clairement, clairement. Et du coup, donc, cette fameuse Bernadette, elle vous met en contact ensuite, enfin, donc, elle valide votre projet.
Ouais.
On va en revenir aux enjeux financiers parce que tu viens de l'aborder, en fait, quelque part. En fait, elle ne vous apporte des éléments financiers que bien plus tard dans le processus. C'est ça qui est assez étonnant.
Alors pas vraiment, en fait, parce qu'elle nous envoie très rapidement ce que je dis dans le livre, les cost sheets, c'est-à-dire la feuille de coût. Mais c'est assez, c'est tous les coûts possibles. Donc, c'est pas quelque chose de figé, de gravé dans le marbre. C'est en fonction de tout un tas de choses, en fonction d'examens médicaux, etc. Il y a beaucoup de
c'est évolutif.
Ouais, en fait. C'est évolutif. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et après, c'est étape par étape. Mais elle dit assez rapidement quel est, grosso modo, quel est le budget total auquel il faut se préparer pour mener à bien le projet. Parce que c'est évidemment une donnée importante dans la mise en œuvre d'un projet comme celui-là. Ça, c'est sûr.
Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Non, mais ça fait partie intégrante du projet. Et c'est clairement ce qui rend la GPA et donc l'accès à la parentalité pour les papas. Difficile, c'est le côté financier.
Bien sûr.
Oui. On n'est pas sur quelque chose d'équitable pour tout le monde, on ne peut pas dire le contraire.
Oui, c'est sûr que c'est un coût. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que culturellement aussi, en tant que Français, on a tendance à oublier ce que coûte la santé. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un dans la rue est capable de dire ce que coûte un accouchement? Voilà, ce que coûte une FIV.
Ça coûte à la société, mais nous, on le sait pas directement.
C'est la solidarité nationale, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier en bon petit français, sauf que dès qu'on sort de l'Hexagone, eh bien, voilà, on en prend très vite conscience. On a la chance extraordinaire d'avoir un système solidaire sur la santé, sauf qu'effectivement, à partir du moment où la GPA est autorisée aux États-Unis, pas en France, bah, tous ces coûts-là, vous les payez directement. Mais parce qu'en fait, pour un Américain, ça, au quotidien, c'est aussi sa réalité via des systèmes d'assurance pour prendre en charge les frais dentaires, voilà, tous ces frais-là, c'est de l'ordre du privé. Donc, du coup, là, on se retrouve confronté à la réalité du système de santé américain et du business qui existe. C'est-à-dire que...
Mais pas lié à la GPA, lié à la santé.
Non, la santé, bien sûr.
C'est ça qui est important. Exactement. Avant d'arriver dans un hôpital aux États-Unis, en France, on vous demande la carte vitale. Là-bas, on vous demande la carte bleue. Et en fonction... Non, mais c'est vrai, c'est assez caricatural, mais c'est la vérité. Mmh. Et ça, c'est vrai que c'est la première chose qui heurte quand on est français et qu'on se lance dans le processus d'une GPA, c'est qu'on découvre tous les coûts médicaux. Et
par exemple, un accouchement, c'est entre 15 et 20 000 dollars, par exemple. Ouais.
Et on se rend compte à quel point on n'a aucun repère en France de
non,
tout ça.
Aucun. Aucun. Enfin, nous, les mamans qui allons à l'étranger, on se rend compte du coup d'une PMA, d'une FIV, que forcément, on la paye. Mais au-delà de ça, tout le reste de la santé en France, aucun.
Je crois que ça coûte à la collectivité, on s'est un peu renseigné, mais un accouchement, c'est entre 5 et 6 000 euros, quelque chose comme ça. Dans ces eaux-là. Et après, quand tu arrives dans un hôpital aux États-Unis, enfin, tu reçois des papiers de coûts possibles, etc. Et par exemple, si jamais il doit y avoir une césarienne, c'est étonnant. C'est ces documents qu'on reçoit comme des options, en fait. Voilà, césarienne, c'est option 8 000 $, par exemple. Voilà, c'est assez étrange, c'est assez déstabilisant.
Et aussi, ce qu'il faut bien comprendre dans le système de santé américain, c'est que là, on parle d'hôpitaux. Il ne faut pas l'entendre au sens des hôpitaux publics. C'est beaucoup de cliniques privées. Whitney, notre mère porteuse, ses 3 accouchements, elle l'avait fait dans une clinique privée. Et évidemment, elle a choisi le même établissement. En France, là où le système public est majoritaire et le privé reste l'exception, aux États-Unis, c'est globalement l'inverse. Donc forcément, il y a aussi des coûts supplémentaires.
Et généralement, les hôpitaux publics aux États-Unis sont quand même dans un état assez...
voilà, pire qu'en France.
Généralement, quand tous les Américains, dès qu'ils peuvent se permettre d'aller dans une clinique privée ou un hôpital privé, ils y vont. Parce que
Et ça ne veut pas dire qu'ils ont de l'argent. C'est juste que c'est l'assurance d'avoir des soins
corrects et sains.
Disons que c'est intégré dans leur façon de vivre aussi. C'est-à-dire que les salaires américains en moyenne sont plus élevés qu'en France, évidemment, parce qu'il n'y a pas toute la partie charge sociale, parce que ça, ils doivent se le payer eux-mêmes, hein, toutes ces parties assurantielles. Et c'est vrai que pour avoir accès, les assurances, c'est des 700, 800, 900 dollars par mois hein, d'assurance pour pouvoir avoir accès à la santé. Donc, c'est ça qui est très. Alors, honnêtement, je pense que c'est ça le plus perturbant. C'est tellement éloigné de notre culture qu'on a du mal à comprendre. On n'a pas les bons réflexes.
Oui, c'est sûr. Et pourtant, on s'y attend. Enfin, je pense que vous deviez vous y attendre. Je pense qu'avec Jarry,
à ce point-là, honnêtement, pas à ce point-là. Parce que à la naissance de Valentin, par exemple, on voit une médecin qui est arrivée avec un petit chariot dans la chambre. Elle avait une espèce de petite machine, des tuyaux, etc. Elle nous dit c'est pour faire des tests d'audition pour le bébé. Donc on lui laisse faire, etc. Elle est avec sa blouse blanche. Et là, elle sort de la poche de sa blouse blanche une machine à cartes et elle nous dit si vous payez tout de suite, vous avez 50% discount pour le prix de l'examen.
Les soldes.
Ça, on peut pas imaginer. Enfin, c'est inimaginable en fait pour nous. Et pour elle, c'était tout à fait normal. Donc, évidemment, on a payé, on avait sorti notre carte bancaire dans la chambre d'hôpital, tu vois, avec bébé qui dort à côté. C'est étrange. Mais
oui, c'est clair que ça doit être déstabilisant.
C'est une culture différente, on va dire.
Ça veut tuer l'amour quand même.
C'est ça. Mais au moins, tu sais où tu mets les pieds, tu sais à quoi t'attendre. Voilà.
Oui, y a rien n'est caché. Hein. Aux États-Unis, ils sont assez cash.
Et en même temps, tu peux négocier.
Ah non, ouais. C'est vrai.
Bien sûr.
Ah oui, c'est vrai. Dans le livre, tu le dis un moment.
Oui, parce qu'on a dû passer 3 jours d'hôpital parce qu'il y avait une histoire administrative, il nous manquait un papier, etc. Et il y a eu une petite négo parce qu'un jour, une journée d'hôpital là-bas, enfin, dans cette clinique, c'était 2000 dollars quand même. Donc 3 jours, ça fait quand même un surcoût.
Ça commence à piquer un peu.
Exactement. Mais bon, pour les Américains, c'est pas choquant du tout ça. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça nous choque en fait.
Oui.
C'est-à-dire que eux, ce qu'ils trouvent extraordinaire, c'est que nous, on ne paye rien en France.
Oui, c'est ça. C'est tout l'inverse, en fait.
C'est un peu les bisounours chez nous, sur ce côté-là.
C'est sûr que quand tu as une carte vitale, un tiers payant, etc., et d'aller à la pharmacie et de repartir avec un sac, avec un de médoc, sans avoir rien payé, pour eux, c'est la quatrième dimension. Hein.
Alors, même si on sait que le système français a tendance à être de moins en moins généreux. Oui.
De toute façon, tu le payes d'une manière ou d'une autre. Mais bon,
il n'en reste pas moins que, effectivement, c'est beaucoup plus individualiste aux États-Unis. Il n'y a pas cette culture de la solidarité nationale pour la santé.
Et ça se vérifie avec l'Obamacare qui a été quand même relativement.
Il a été vidé sa substance par Trump. Oui.
C'est ça, complètement par Trump. Et puis en plus, il y avait des opposants, quoi. On se dit, mais.
Y compris chez les démocrates. C'est sûr.
C'est ça, c'est ça c'est là qu'on se rend bien compte que la culture est complètement différente. Enfin,
et en même temps, ce qui est assez marrant, c'est qu'aux États-Unis, t'as à la fois, tu le disais, Ghislain, quelque chose de très individualiste, et en même temps, une espèce de générosité et de don de soi que tu ne trouves pas chez nous non plus. Parce qu'avec la rencontre qu'on a faite avec Whitney qui a porté notre bébé, on est vraiment là, dans une espèce de bonté totale, de générosité. Ce genre de générosité-là, tu ne la trouves pas, beaucoup moins en tout cas, dans nos sociétés à nous. Donc, c'est assez étrange, c'est très ambivalent la société américaine.
Et même d'ailleurs, tout le personnel soignant, sur les médecins, les infirmières, les sages-femmes qui nous ont suivis, les psychologues de A à Z sur cette aventure-là, ça ne pose même pas question.
L'homosexualité, tu veux dire.
L'homosexualité et le processus de GPS.
Et la parentalité,
pour eux, c'est d'une banalité affligeante.
Oui. Et pour le coup, je pense que ce qui aide beaucoup, c'est que le rapport au corps est complètement différent aux États-Unis. Tu disposes de ton corps là où en France, ça coince.
C'est la liberté, en fait. C'est ça qu'ils ont du mal à comprendre quand mais ils te disent, mais je comprends pas pourquoi c'est pas possible en France parce que vous êtes pas le pays de la liberté. Et en fait, c'est très différent. Eux, c'est le pays de la liberté dans le sens libéral. Et nous, on est dans des valeurs qui sont un peu plus abstraites, on va dire.
La liberté morale.
Oui, c'est ça. C'est complètement ça. Bon, et revenons-en à votre parcours. Donc, du coup, la première chose que vous avez eu à faire après avoir validé votre candidature, on va dire, parce que c'est un peu ça quelque part, vous le dites très bien, c'est que là, il a fallu que vous commenciez à rentrer dans les choses sérieuses et à trouver une donneuse. C'est la première étape. Et là, ça a été une partie qui a été relativement déjà longue, soyons clairs, et où vous avez eu des désillusions.
Bah, disons que c'est un peu étrange parce qu'on t'envoie un lien vers un site internet avec une sorte de... ça ressemble à un site de rencontre un peu, hein, finalement, parce que tu as des photos, tu connais les villes, les états, tu as des informations sur la taille, le poids, la couleur des yeux,
etc. Ses passions, ses études, ses situations familiales.
Ça ressemble à ce que je dis dans le livre, mais ça ressemble à Tinder, en fait. C'est un peu ça, ça ressemble à un site de rencontre. Donc, et finalement, c'est... Comment dire, on regardait les photos, on regardait un peu ce qu'elles écrivaient, et puis des fois on avait un feeling avec une ou pas, et puis voilà, on en a sélectionné quelques-unes, et puis parfois tu te dis, on envoie des mails, et puis on apprend que telle jeune femme n'a pas envie de donner à un couple homo, par exemple, ou à un couple étranger, mais préfère uniquement pour des couples américains, ou, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte, et puis...
C'est toujours la donneuse de vos sites qui, au final, choisit, c'est-à-dire que
oui.
Nous, on peut... peut dire, voilà, nous, on aimerait que ça matche avec elle. Au final, c'est elle qui regarde notre fiche, qui valide ou pas. Et ensuite, si c'est validé, dans un second temps, là, il y a un Skype, une rencontre visio, où on échange. Et c'est assez court de se dire que le temps d'un visio, il faut que...
Il n'y a pas toujours de visio, hein.
Oui, mais nous, on a essayé de faire des visios à chaque fois. Mais le temps d'une vidéo, que le feeling passe ou pas, c'est quand même pas rien.
Avec la distance, la barrière de la langue.
Ce qui est important à dire, c'est que, grosso modo, tu as les trois quarts des donneuses de vos sites qui restent anonymes. Donc, du coup, tu peux échanger avec elles, mais via l'agence, en fait. Donc, tu ne sais pas comment elles s'appellent et tu n'as pas de contact précis. Et puis, il y a un quart des donneuses de vos sites qui acceptent de garder un contact. C'est rentrer dans ce qu'ils appellent un cycle connu. Et là, tu peux communiquer avec elle, tu as son adresse mail, etc. Et nous, c'est cette option-là qui me tenait à cœur parce que j'avais envie que Valentin, en l'occurrence, je savais pas si ça allait être un petit garçon ou une petite fille, mais que notre enfant, quand il serait plus grand, si jamais il avait envie de connaître ses origines, qu'il puisse tout savoir. Et je trouvais ça mieux pour son parcours à lui, pour son histoire personnelle, qu'il puisse en tout cas avoir cette porte ouverte. Après, elle peut ne pas répondre, mais en tout cas, elle est tenue de laisser ses coordonnées. On peut la joindre, on peut lui écrire une lettre, on sait comment elle s'appelle. Nous, on a gardé le contact, on s'envoie des messages de temps en temps. Et c'était... pour le coup, une condition importante en ce qui me concerne. Et puis après, il fallait effectivement, comme le dit Justin, qu'elle soit d'accord et qu'elle valide aussi notre profil.
Oui, voilà, c'est ça. C'est que du coup, là, vous êtes candidat et c'est elle qui fait le choix. Enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est vraiment
exactement,
elle qui fait le dernier choix.
C'est la même chose ensuite avec la donneuse de vos sites et c'est la même chose ensuite avec la mère porteuse. Et puis, mais après, l'autre chose qu'il y a, c'est qu'on peut sélectionner des donneuses de vos sites, mais ensuite, il y a tout un tas de tests, il y a toute une batterie de tests et d'analyses pour vérifier que effectivement la donneuse de vos sites sera bien compatible avec nos patrimoines génétiques pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci et qu'il y ait bien une fécondation et que les choses se passent bien côté médical.
Oui, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, vu que le médical a un coût très important aux États-Unis, ils se bordent là-dessus pour être certain que si on se lance dans l'aventure, la donneuse aura des ovocytes, que ensuite on pourra avoir des embryons viables. Voilà, tout ça.
Et ça prend du temps.
Ça prend du temps, mais c'est ce qui permet au processus ensuite de prendre son rythme de croisière.
Ouais. Donc, d'être plus sécurisé aussi, parce que c'est d'augmenter au maximum le taux de réussite de ce voilà ce long processus qu'on va démarrer.
Mais oui, complètement.
C'est un peu, si on fait le parallèle avec ce qui se fait en France, notamment par exemple pour les FIV, mm-hmm. on refuse de faire les diagnostics pré-implantatoires. Voilà, on le sait qu'en Espagne, c'est le cas, aux États-Unis, c'est le cas. Donc voilà, c'est un peu le même processus et qu'on s'assure qu'ensuite le transfert d'embryon se passera au mieux, là où aussi en France, il y a une certaine forme d'hypocrisie.
Oui, ouais, complètement. Complètement. Et c'est vrai qu'en France, on ne le fait pas et que du coup, bah, il y a des échecs à répétition et que c'est épuisant psychologiquement pour les couples.
Et physiquement, c'est traumatisant pour tout le monde. Là, l'objectif, c'est de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, on essaye d'éviter au maximum l'aléatoire, quoi. Au minimum.
Oui,
voilà, il y a forcément toujours, à un moment donné, la nature intervient. Hein, à un moment donné, ça marche ou ça marche pas. Mais on essaye de limiter au maximum le risque.
Oui, complètement. Et donc, tu disais, du coup, même parcours pour trouver une mère porteuse. Donc là, c'est encore différent parce que je suppose que le nombre de candidates se réduit drastiquement. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de votre parcours de recherche de mère porteuse ?
Alors oui, pour rechercher une mère porteuse, c'est un long processus, c'est un long parcours, parce que là encore, c'est un peu la même chose. Il y a une espèce de site où tu as tout un tas de profils possibles. Et après, elles reçoivent énormément de demandes, il y a beaucoup de couples. Et du coup, on est rentré en contact et on a discuté en visio avec plusieurs mères porteuses, je crois 5 de mémoire. Et à un moment donné, on s'était attaché à une mère porteuse, mais bon voilà, elle n'a pas passé l'entretien psychologique, on s'est rendu compte, visiblement, en tout cas l'agence, qu'elle était un peu trop fragile psychologiquement, donc il a fallu recommencer une recherche. Et puis, on nous a envoyé un jour le profil, Bernadette, je me rappelle du mail qu'elle nous a envoyé en disant, je pense que cette nana-là, elle pourrait coller. Et puis, on était en vacances, je me rappelle, on était en vacances dans le sud, côté de Ramatuelle sur la Côte d'Azur, chez des potes. On avait passé l'après-midi au bord de la piscine et là, on a installé l'ordinateur à l'arrière de la maison pour pas qu'il y ait trop de bruit, devant les fleurs et tout. Avec le décalage horaire, c'était la fin de journée, le début de journée pour elle et la fin de journée pour nous, il devait être 19h. Et puis voilà, on a discuté avec elle et on a eu…
une évidence.
On a eu un feeling, vraiment. Et on a espéré ensuite que ce feeling soit partagé. On a envoyé un petit mail à Bernadette en lui disant, écoute, on a trouvé… qu'elle était super, et on a croisé les doigts pour qu'elle ait ressenti la même chose, parce que, là encore, ce sont les mères porteuses qui choisissent avec quel couple elles souhaitent réaliser cette aventure, enfin, poursuivre ce parcours-là, et elle avait parlé avec 3 autres couples, donc on a été les heureuses élues, on va dire.
Mais tu sais que tout le monde va me demander le numéro de Bernadette après.
C'est possible.
Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est quand même elle qui coordonne tout.
Et elle nous a accompagnés tout le long. Et elle est même venue pour la naissance de Valentin.
Un peu la bonne fée.
À la clinique.
Oui, c'est tout à fait ça.
Le lendemain, elle a pris un avion. Elle était là à la clinique pour nous accompagner, nous aider sur la partie un peu de quelques démarches administratives, etc. Et puis, les couples avec qui elle s'entend bien, avec lesquels elle a un bon feeling, effectivement, elle les retrouve au moment de l'accouchement, généralement.
Ouais. Mais c'est vrai que tu sens qu'il y a une vraie… tout à l'heure, on parlait du don de soi par rapport à la mère porteuse, mais tu sens que l'investissement de tous les administratifs, entre guillemets, qui sont autour du processus, il est aussi très important. Que ce soit…
Bah oui, ça fait partie des choses que je décris aussi, le directeur de l'agence avec sa femme, qui… Oui. Voilà, c'est extraordinaire de créer des familles.
Oui,
mais voilà, toutes celles, je me rappelle la coordinatrice des mères porteuses qui était hyper, hyper ennuyée, qu'on ait eu une fausse joie avec un premier profil.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une GPA éthique, c'est de toute façon l'humain avec un grand H qui est au centre.
C'est une grande histoire humaine.
Et à tous les niveaux, que ce soit avec l'agence, avec la femme porteuse, avec l'équipe médicale, voilà, c'est vraiment l'humain. On entend souvent…
c'est du commerce, mais c'est pas vrai. Genre, qu'on a commandé un bébé en cliquant sur Internet, qu'on a commandé un bébé Amazon ou genre de trucs dégueulasses, ça m'avait vachement blessé au moment de la naissance de Valentin, qu'on avait commencé, on avait mis des petits messages et tout. Et il y avait des gens qui me disaient, ah, ça va, vous êtes contents, vous n'allez pas le rendre, Amazon nous a bien livré, etc. Ces genres d'allusions qui sont très agressives vis-à-vis de nous, certes, mais irrespectueuses vis-à-vis de notre enfant, vis-à-vis des femmes qui l'ont aidé à venir au monde. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de prendre la parole. C'est aussi pour montrer ce que c'est aussi cette réalité-là. Alors, je ne dis pas que c'est toujours la même chose que ce qu'on a vécu, parce que je crois qu'on a été très chanceux sur plein de points. On a créé une relation vraiment très forte avec Whitney, notamment, mais ça veut dire que c'est possible et qu'il ne faut pas salir nos… Je me répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais salir nos histoires, notre histoire et nos familles.
Aussi, je fais une petite parenthèse, c'est-à-dire que effectivement, là, on parle de GPA éthique, on parle de notre parcours aux États-Unis. C'est des parcours similaires au Canada. Il faut savoir que quand on est deux garçons homosexuels, si on veut faire une GPA, il y a deux pays dans le monde où c'est légal. C'est le Canada et les États-Unis. Donc, effectivement, on peut pas dire que toutes les GPA dans le monde se passent de manière éthique et formidable. Il y a plein de zones d'ombre dans plein de pays où c'est pas encadré de manière législative, juridique, médicale. Mais nous, on parle de ce qui nous concerne, c'est-à-dire la GPA pour les homosexuels quand on est français, c'est les États-Unis et c'est le Canada. Et là-bas, les choses sont clean.
Oui, le reste, les autres exemples dont on entend parler parfois, on est visiblement en tout cas pour les couples homosexuels français, donc des trucs qui frisent ou qui dépassent l'illégalité, ou des filières, des trucs qui sont pas clairs, quoi. Donc c'est vrai que nous, on peut pas parler de ça.
Et jamais on défendra ça, c'est-à-dire qu'on encourage absolument personne à faire une GPA pour faire une GPA à tout prix.
D'ailleurs, je dis dans le livre, hein, pour le coup.
Il faut se poser les bonnes questions.
Ça fait partie des choses dont je parle dans le livre. À un moment donné, j'étais contacté par une agence espagnole qui visiblement pas, enfin, ça passe par l'Espagne pour contacter l'Ukraine et dans une espèce de filière qui me semblait pas claire du tout et assez louche. Voilà, il faut être très prudent dans ce genre de situation. Et c'était vraiment la condition sine qua non, c'est d'être sûr que les choses puissent se faire de manière respectueuse.
Je crois aussi que si on veut devenir parent, il faut être responsable. Et la responsabilité d'une parentalité exemplaire commence à la genèse même de la GPA.
Avec une ligne de conduite, une éthique. L'idée, c'est pas de faire n'importe quoi. Quand on a, c'est tellement long, c'est tellement fort ce désir de famille. Enfin, je parle à quelqu'un qui a 4 enfants. Alors, je sais à quel point c'est impressionnant. C'est quand même du boulot. Mais c'est tellement fort ce désir de fonder une famille. Et c'est totalement universel. C'est pas lié à être garçon, fille, homo, hétéro ou quoi que ce soit. Quand on a ce désir au plus profond de soi, oui, on a envie de devenir parent, mais pas n'importe comment, c'est pas possible.
Complètement. C'est vraiment le sens d'une vie. Et ce que moi, je voudrais rajouter par rapport à la GPA non éthique, c'est que c'est évidemment ces parcours-là qui sont retenus par nos détracteurs et c'est ceux-là qui diffusent, en fait, des idées complètement, des idées reçues. Aujourd'hui, clairement, j'ai enregistré plusieurs épisodes avec des papas qui sont passés par des parcours de GPA à la fois aux États-Unis et au Canada et ouais, de tout ce que j'entends, mais vraiment, effectivement, l'humain est au centre de l'aventure, clairement.
C'est vrai, complètement. Ouais.
Et c'est, en fait, moi, je trouve ça magnifique, ce don de soi, en fait, que tout le monde peut avoir pour arriver à nous permettre, à nous, de construire des familles, alors qu'aujourd'hui, la nature ne nous le permet pas.
Non, mais il n'y a rien de plus beau que de construire une famille, et c'est ce que raconte, c'est ce que dit Whitney, d'ailleurs. Elle le dit, elle a 3 enfants, elle a eu 3 filles, et elle raconte à quel point c'est ce qui l'a le plus épanoui dans sa vie, et qu'elle trouvait que c'était sans doute la chose la plus importante dans une existence, que ça te donne vraiment un sens. Et pouvoir permettre à une famille d'exister, à une famille de se créer, à un couple de connaître ce privilège incroyable que de devenir parent, pour elle, ça a été quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle s'est sentie prendre part à une aventure de famille incroyable et le cadeau qu'elle nous a fait, il est inestimable. On ne pourra jamais lui montrer toute la gratitude qu'on a. Elle a vraiment changé notre vie, elle et puis sa famille, qui ont été extraordinaires aussi.
Oui, Jacob était très présent tout au long du processus. Il a pris une place très importante.
Même sa mère à elle.
Et ça, c'était ça Annette, aussi qui était
génial,
qui était bien, c'est qu'il y avait un élan familial derrière. C'est-à-dire
oui,
qu'il y
c'est
avait
un projet Whitney, familial, c'est pas
mais
un projet.
Pas que. C'est-à-dire que
ses amis aussi.
Aujourd'hui, on a vraiment un bout de famille aux États-Unis. C'est les cousins d'Amérique.
Mais le problème, c'est que Gisela parle pas bien anglais. Alors, il comprend pas tout ce que dit cette famille,
mais ils sont formidables.
Mais ils sont formidables. Quand je lui traduis, il les trouve super.
Voilà. Le principal, c'est d'être ensemble.
Voilà. Non, mais c'est vrai que ça crée des liens indestructibles. Ça crée quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, il y a des photos de Whitney juste derrière, là, dans le salon où on est. Valentin regarde la photo souvent. On lui montre les photos de la famille, de tout le monde. Parce que ça fait partie de son histoire.
Mais bien sûr. Et c'est vrai que c'est ça que je trouve hyper touchant dans les parcours de GPA que j'ai enregistrés, c'est que systématiquement, le lien avec la mère porteuse, il est maintenu. Systématiquement. C'est là qu'on voit que c'est une personne qui entre aussi dans la famille en même temps que le bébé.
Voilà, dans tous les gens qu'on connaît aussi dans notre entourage, ils ont gardé un lien, alors plus ou moins fort, ça dépend si tu t'entends plus ou moins bien, il y a une magie qui peut opérer plus ou moins, tu vois. Mais il y a toujours un lien qui est créé et qui reste, forcément.
Et après, l'intensité du lien aussi, ça, il faut bien comprendre que c'est aussi décidé en amont, c'est-à-dire qu'au moment où une mère porteuse nous valide, ou quand on choisit une mère porteuse, on détermine aussi le lien qu'on a envie d'avoir, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin d'un lien très fort.
Enfin, on détermine, c'est pas tout à fait ça, c'est qu'en fait, elle nous a demandé, est-ce que vous avez envie de maintenir un lien? On lui dit oui, et c'est ce qu'elle recherchait, donc elle sélectionne aussi, elle nous a dit qu'elle avait parlé avec 3 autres familles. Effectivement, il y avait d'autres gens qui disaient oui, on gardera un lien, mais sans plus, quoi.
Ouais. Et du coup, c'est ça qui l'a sûrement incité à faire le choix de.
Ce qui est sûr, c'est que les deux parties choisissent le lien qu'elles veulent avoir, et c'est ce qui fait que ça matche ou pas. C'est-à-dire que il y a des femmes porteuses et des familles, enfin, des parents intentionnels, qui préfèrent avoir une certaine distance, mais tout en étant proches, et d'autres qui ont besoin d'un rapport peut-être plus fusionnel. Et nous, c'est vrai qu'on était plutôt dans cette démarche-là, mais après aussi. voilà, il faut pas imaginer que c'est toujours comme ça et que toutes les mères porteuses sont en recherche de ça. C'est-à-dire qu'il y a des degrés qu'on décide d'avoir dans l'implication du projet après le bébé.
Puis après, ce qu'on s'est dit avec Whitney au début quand on discutait ensemble, le truc, c'est que tu peux jamais savoir si tu vas vraiment devenir ami ou pas, ou tu peux pas savoir comment va se passer
le lien,
grossesse et l'après, etc. Là, nous, ça se passe de manière hyper naturelle et on garde. Enfin, il n'y a pas une semaine sans qu'on s'envoie des nouvelles, des photos, une petite vidéo. On lui a envoyé la vidéo des premiers pas de Valentin l'année dernière. Elle nous a envoyé la dernièrement la photo de sa petite dernière Avery qui rentre à l'école avec son petit cartable et tout. Et ouais, c'est. On a gardé un lien très fort, vraiment.
Ouais, une aventure. Enfin, c'est une vraie aventure humaine et clairement aujourd'hui vous êtes tous liés quoi. Et c'est Valentin exactement, en fait qui vous lie tous.
C'est sûr, c'est Valentin qui nous lie et.
Mais en fait, Valentin, c'est un peu le fruit de l'amour, pas que de ses papas, mais aussi de Whitney, la mère porteuse, de Bruna, la donneuse. Voilà, c'est le mélange de, enfin, c'est la rencontre de ces quatre personnes qui a permis d'avoir ce petit bonhomme, mais qui est vraiment le fruit de l'amour.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, ces deux femmes qui nous ont aidés nous à devenir parents ne sont des mères. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous, on était un couple, on était deux parents potentiels, mais il se trouve que c'était deux papas, et deux femmes nous ont aidés. Il y en a une qui a donné ses ovocytes, l'autre qui a donné d'elle-même pendant de longs mois pour le porter, le faire grandir dans son ventre. Mais à aucun moment, il y a une idée d'une mère qui a abandonné un enfant, contrairement à ce que parfois certaines personnes disent. Il n'y a aucun abandon dans notre aventure, dans notre histoire. Il n'y a que du don. Et ça, ça change tout. À aucun moment, Valentin, et c'est vrai que c'est le recul qu'il y a aussi sur les enfants des GPA un peu plus vieux qu'on connaît dans notre entourage ou même le retour qu'on a aux États-Unis, il n'y a pas cette espèce de sentiment d'avoir été abandonné, de ne pas avoir été assez aimé. C'est le contraire, là. C'est des enfants tellement désirés, tellement aimés qu'on a réussi à convaincre des femmes de faire ce don exceptionnel pour nous aider. Donc, voilà, c'est que du don, pas de l'abandon.
Ça, je crois que c'est clair. Ça, c'est à retenir. Et aujourd'hui, nos enfants, on ne peut pas retirer le fait qu'ils sont extrêmement désirés vu comment on se démène pour arriver à les avoir.
Ça, c'est clair. Ils ne sont pas arrivés par hasard, je confirme.
Ah non, 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 non. Et alors, on a parlé de la mère porteuse, on a parlé de la donneuse d'ovocytes, on a parlé de Bernadette. Il nous manque un pan dont on n'a pas parlé, c'est toute la partie juridique qui borde tout ça quand même. Ouais. Et il ne faut pas oublier qu'on est aux États-Unis. Donc, oui. La partie juridique, ils rigolent pas avec ça. C'est pas la même justice qu'en France, on va dire.
Alors, c'est un pays très judiciarisé. Et quand tu mets les pieds aux États-Unis, tu le vois tout de suite. Tu es en voiture sur la route et tu as des espèces d'énormes panneaux au bord des routes avec, pour les pubs d'avocats. Il y a tout le monde a son avocat aux États-Unis. Pour tout et n'importe quoi.
C'est pas que dans les séries, ça. C'est-à-dire que vraiment, au quotidien, tout le monde a son avocat.
C'est-à-dire que si jamais tu as une petite tôle froissée, un petit accident, il faut un avocat. Voilà, tout le monde a un avocat. C'est comme ça. Ça fait partie de la société américaine. Et du coup, c'est vrai que la partie juridique est longue. Dans une GPA éthique, tu prends un avocat pour toi, tu payes également l'avocat qui va s'occuper de Whitney, de la rédaction du contrat. Et effectivement, il y a un contrat qui est rédigé par des avocats, un contrat de prestation pour autrui qui va prendre en compte tout un tas de choses, tout un tas d'aspects, comment va se passer le processus. C'est long. Cette période-là, elle est longue. La rédaction des contrats, ça dure longtemps. Ça, c'est la partie juridique.
Et ça doit être fastidieux en plus.
Et ouais, c'est fastidieux parce que c'est des contrats qui font genre 40 ou 50 pages. Et je me rappelle, avec le décalage horaire, j'avais toujours l'avocat, il m'appelait à 1h du mat.
Au moment où t'es bien clair.
Ah ouais, il m'appelait à 1h du mat, et là, il me relisait les paplards pendant 1 heure, et des fois, j'étais un peu perdu, je savais plus trop de quoi il s'agissait, où on en était. Mais en même temps, ça permet de prendre en compte tous les cas de figure possibles.
Oui, et puis aussi d'en prendre conscience, toi, de ton côté, parce qu'il y a des choses que tu n'envisages pas.
Exactement, il y a des choses que tu ne réalises pas toujours, et c'est là que le lien aussi se crée sur ce qui va se passer avec la mère porteuse. Parce que il y a des parents d'intention, par exemple, qui sont plus ou moins tatillons, entre guillemets. Tu peux stipuler dans le contrat que tu veux que la mère porteuse ne mange que du bio, par exemple, qu'elle ne conduise plus sa voiture pour être sûre qu'elle n'ait pas d'accident, ce genre de choses. Mm-hmm. Je connais des couples dans notre entourage qui étaient un peu plus flippés, qui étaient très comme ça, à vouloir interdire des choses ou réglementer. Mais nous, ce qui nous tenait à cœur, c'est qu'elle soit épanouie, qu'elle se sente bien, etc. On est dans une relation de confiance.
Bien sûr.
En revanche, dans le contrat, il y a bien écrit qu'à partir, je crois, du 7e mois, elle n'a plus le droit de conduire.
Ah oui.
Elle n'a plus le droit d'aller dans un dans un autre état, même si elle veut aller voir des gens de sa famille, etc., ouais. au cas où il y ait une problématique de fausse couche, quoi que ce soit.
Tout est envisagé, c'est fou, hein.
Voilà, tout est envisagé, tout est prévu. Je me rappelle, elle, la grossesse se passait super bien. Elle nous avait demandé, tiens, elle nous avait envoyé un truc par rapport au contrat, c'est est-ce que je peux aller chez ma belle-sœur ce week-end ? Il y a 2 heures de route. Donc, elle a dit, dès lors que c'est que le médecin valide et qu'il n'y a pas de problème, oui, elle y allait, il n'y a pas eu de souci, évidemment. Mais tout doit être précisé parce que, voilà, c'est à l'américaine, on va dire.
Ouais, c'est clair. C'est assez fou. Enfin, moi, je trouve ça assez fou. Bon, après, c'est normal, c'est les États-Unis. Voilà, faut en passer par là et finalement, au moins, ça aborde tout le monde.
C'est très rassurant d'un autre côté parce que ça permet de pouvoir vraiment être assuré que les choses vont bien se passer et vont se passer de manière. Là encore, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, la notion d'éthique. L'accompagnement juridique, c'est aussi ça qui garantit l'honnêteté, l'éthique et que les choses se passent bien dans des bonnes conditions pour tout le monde.
Mmh. Oui, complètement. Et je pense que c'est plus que nécessaire.
Cet encadrement juridique, c'est ce qui permet vraiment d'assurer le droit de la femme, le droit de l'enfant mmh. et le droit des parents intentionnels. Et aussi, il y a quelque chose à savoir, c'est que aux États-Unis, tous les États, puisque c'est un pays fédéral, n'ont pas les mêmes juridictions et les mêmes lois sur le sujet. Donc, il y a des États qui sont beaucoup plus progressistes que d'autres. Par exemple, Texas est évidemment un État beaucoup plus fermé. On voit même qu'ils remettent aujourd'hui en cause l'IVG.
Oui, tous les pays ne sont pas ouverts à la GPA tout court. Et parfois, mmh. certains le sont, mais pas pour les couples homosexuels, ou certains le sont, mais uniquement pour les couples américains, pas pour les étrangers. Il y a à peu près la moitié des États aux États-Unis qui sont ouverts à la GPA. Et après, tous n'offrent pas tout à fait les mêmes garanties. Par exemple, nous, le Nevada, où était installé Whitney, donc l'état de Las Vegas. Dans le Nevada, par exemple, tu peux inscrire les deux papas sur l'acte de naissance. Ce n'est pas forcément possible dans tous les états. Il y a des états aux États-Unis où tu dois quand même voir apparaître la mère porteuse qui dit avoir abandonné son enfant, par exemple. Et du coup, même psychologiquement, je pense que ce n'est pas la même chose.
Oui, non, c'est sûr.
C'est moins facile, en tout cas.
Et c'est vrai que ça, c'est un élément à prendre en compte, pour le coup, aussi au moment où ça match avec la mère porteuse. C'est-à-dire que au moment du choix de la mère porteuse, c'est pas anecdotique le choix de l'état dans lequel elle vit, parce que l'arsenal juridique peut avoir des conséquences, notamment après, au moment du retour en France et des droits offerts à l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a
des états plus ou moins favorables, effectivement, mm-hmm. pour permettre la reconnaissance plus facile en France de ton enfant et de la filiation de ton enfant.
Oui, voilà, parce qu'effectivement, dans le livre, tu l'évoques sur la fin du parcours, parce que ça fait, en fait, le parcours, il n'est pas fini à la naissance de Valentin.
Non, on croit que c'est fini, mais pas du tout. Non. Ça continue, ça c'est ne s'arrête ça. Jamais.
Et donc ensuite, il faut arriver à faire reconnaître Valentin déjà pour commencer comme enfant français, et ça, c'est pas gagné. Et ensuite, il faut faire établir, alors, pas établir votre filiation, mais plus ou moins, quoi. Elle est déjà établie aux États-Unis.
En fait, non, les papiers français, tu les as facilement.
D'accord. Nationalité française pour Valentin, oui.
Oui, la nationalité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton enfant naît sur le territoire américain, donc il a le passeport américain, il a le droit du sol aux États-Unis. Donc, quand tu repars en France, toi, tu repars avec ton passeport et ton enfant a le passeport américain. Mmh. Et après, arrivé en France, il faut faire une demande de papier. Mais ça a fonctionné assez vite. On a eu le passeport et la carte d'identité en 1 mois et demi, quelque chose comme ça.
Oui.
L'inscription à la Sécu, pareil, c'est très facile.
Oui, c'est assez rapide finalement.
Donc ça, c'est rapide. Mais ensuite, en revanche, il y a une espèce de flou juridique. C'est-à-dire qu'il y avait eu une circulaire de Christiane Taubira en 2013 dans la foulée du mariage pour faciliter la reconnaissance des enfants nés de GPA à l'étranger. Donc les papiers, tu les as. En revanche, il y a un flou juridique, tu n'as pas l'inscription à l'état civil. C'est-à-dire que, c'est paradoxal, mais cet enfant, il est français, mais il n'existe pas, en fait, dans l'état civil français. C'est ça qui est perturbant.
C'est fou, c'est incompréhensible.
Ben voilà, c'est-à-dire que, donc du coup, il n'a pas de filiation, puisqu'il n'existe pas. Il n'a pas de parents.
Il n'a pas de grands-parents. C'est-à-dire que s'il nous arrive quoi que ce soit,
voilà.
La sécurité de l'enfant est totalement absente.
Il n'y a que les papiers américains qu'on a, je ne parle pas du passeport, je parle de l'acte de naissance américain qu'on a, qui stipule les deux papas et avec aussi puisqu'il y a une décision juridique aux États-Unis, donc la décision juridique qui institue notre parentalité. Mais tu n'as que ça, en fait, comme justificatif. Donc ensuite, il faut prendre un avocat français et faire une démarche qu'on appelle une exéquature de jugement, c'est-à-dire qu'un juge français va étudier notre dossier et faire en sorte que le jugement américain qui institue notre filiation et qu'on est tous les deux papas soit retranscrit en droit français.
Soit voilà. Applicable en France. En fait, oui. c'est un jugement qui reconnaît le jugement américain.
Voilà,
et
c'est
qui
ça.
Qui transforme en droit français pour que ça fonctionne en France. Et ça, on a mis plus d'un an à l'avoir. On a eu la décision en janvier 2021, donc après plus d'un an de démarche. Et ensuite, il faut attendre 2 mois au cas où qu'il n'y ait pas un appel ou quoi que ce soit. Et on a reçu l'acte de naissance français de Valentin qui mentionne ses deux papas, Ghislain et moi.
Et donc là, ça y est, là, on tient la fin de l'aventure GPA, j'entends bien.
Voilà. Mais le début et après, il y a l'aventure de la parentalité voilà. qui, elle, ne s'arrête jamais. C'est ça qui est bien.
Non, là, c'est bon. Vous avez signé maintenant.
Exactement. Là, ça continue, mais ça, on le voulait. Donc, on est content.
Voilà, exactement. Et alors, depuis le début de l'entretien, on parle de ton livre, de votre livre que vous avez écrit tous les deux, qui s'appelle « Fils à papa », qui va sortir, alors du coup, plus ou moins au moment où je vais sortir le podcast aussi, aux éditions Plomb.
Ouais, et fils à papa avec un S à papa, évidemment, puisqu'il y en a deux, voilà.
Voilà. Et donc, je vais te laisser parler par rapport à ça, mais je suppose qu'il y a une vraie visée pédagogique. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que, en fait, tu arrives à mêler un ton qui est un ton de confident, tu vois, que les gens vont aller chercher pour découvrir un peu qui est cette star de la télé. Et en même temps, tu fais de la pédagogie dedans, donc tu vas aller chercher tu vas aller toucher tout le monde, en fait.
Écoute, je sais pas. Moi, ce qui me tenait à cœur, c'est de raconter l'histoire de Valentin déjà pour lui,
pour
qu'il puisse connaître son histoire et que son histoire soit reconnue. Et ensuite, voilà, j'étais contacté par cet éditeur qui m'a dit, je pense que c'est important de raconter l'histoire de votre petit garçon. C'est un éditeur qui avait lu un article qui parlait de notre famille dans Gala l'été dernier. Et moi, j'avais commencé à écrire des choses tout au long du processus, mais plus pour rien oublier, pour qu'on ait tout en tête. Et puis, il m'a convaincu en me disant qu'il pensait que c'était important pour les autres familles homoparentales, pour les jeunes, pour donner de la visibilité et faire avancer les mentalités. Donc, je me suis mis, notamment pendant le deuxième confinement, à fond derrière mon ordinateur. Et j'ai essayé d'écrire de manière à la fois précise et informative, mais divertissante aussi. C'est-à-dire que il y a des émotions, on se marre aussi. Moi, je me suis marré en écrivant, j'ai pleuré aussi parfois. Je trouve que l'émotion peut faire passer beaucoup de choses et beaucoup de messages. Et la pédagogie, ça passe bien quand tu es pris par la main et que t'es diverti aussi. Et c'est ça que je voulais. Je voulais qu'il y ait une espèce de suspense parfois, et que tu t'attaches à notre aventure, à notre petite famille.
Ouais, c'est pas un livre militant. On n'est pas là non plus pour faire du prosélytisme. On est là pour en fait juste témoigner de notre parcours pour devenir parents.
Oui, complètement. Et c'est très réussi parce que on s'attache, on vous connaît séparément l'un l'autre dans la vie de ce que vous nous en montrez. Mais là, il y a la confidence et du coup, on s'attache vraiment. Et je pense que aujourd'hui, ça va. Même si c'est pas un acte militant en soi initialement, ça va en devenir un.
Alors en fait c'est pas un acte politique mais c'est un acte engagé en fait et finalement quand on s'engage dans la société pour des combats qui vous tiennent à cœur c'est quelque part de la politique. Après là où Ghislain quand il dit qu'on n'est pas militant c'est-à-dire que on n'est pas en train de revendiquer en tout cas mais s'exprimer par définition c'est un engagement et une prise de parole comme ça c'est quelque sorte du militantisme. Mais en tout cas, c'est surtout une visibilité. Moi, je pense que c'est très important de rendre nos familles visibles. Moi, je vois tous les messages qu'on reçoit, Ghislain aussi, sur nos réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook ou Twitter, de tout un tas de gens qui nous disent « Merci pour ce que vous faites parce que vous nous aidez au quotidien pour nos familles, pour les familles homoparentales, par exemple, qui nous disent « Voilà, ça nous aide, ça normalise, même si j'aime pas trop le mot, mais c'est un peu ça, en rendant visible, ça normalise les choses et ça permet de faire en sorte que les gens soient plus respectueux et se rendre compte que nos familles ressemblent à toutes les autres familles, finalement. Elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais presque, finalement. On aura avancé. Quoi.
Et puis, c'est aussi peut-être un livre d'espoir pour des jeunes LGBT aujourd'hui en France. On le voit aujourd'hui, il y a un contexte un peu compliqué où il y a une forme de repli sur soi, la vision d'une France traditionnelle, un peu rabougrie.
T'as le vivre ensemble, en ce moment, il est un petit peu mis à mal. Hein, ça,
voilà.
C'est sûr.
Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi se dire que des jeunes LGBT qui lisent ce livre aient la sensation que le champ des possibles est réalisable et qu'aujourd'hui, on peut choisir sa vie. On sait aussi qu'une homosexualité mal assumée est responsable de, enfin c'est la première cause de suicide chez les jeunes homos. Donc voilà, si on peut mettre notre petite pierre à l'édifice pour que tout le monde se sente mieux et tu parlais du vivre ensemble, c'est aussi ça qu'on décrit dans ce livre. C'est important. On parle aussi, je pense, hein, aux familles,
aux mamans, de jeunes LGBT. aux mamies.
Voilà, elles ont un nouveau regard aussi sur l'homosexualité qui peut parfois leur faire peur, voilà, parce qu'elles connaissent pas cet univers-là.
Et quand tu découvres que ton garçon ou ta fille, c'est pareil, mais est homosexuel, tu tu te dis il va être malheureux, peut-être ou il va être obsédé sexuel ou il va être Non mais voilà, il y a tout un tas. Et là finalement,
il y a beaucoup de peur.
Quand tu montres via le podcast qu'on fait ensemble, via tous les médias qu'on va pouvoir faire ou via les photos qu'on met sur Instagram, finalement ça rassure beaucoup les gens. Et puis il y a beaucoup de c'est marrant, beaucoup de femmes qui nous envoient des messages en disant mon fils est homosexuel, mais grâce à vous, je me dis je pourrais peut-être devenir grand-mère et mon fils sera heureux. Oui.
Alors c'est une des premières inquiétudes hein, pour les parents.
Mais oui, bien sûr. C'est sûr. Quand on aime ses enfants, et on le sait d'autant plus que maintenant on en a un, la principale préoccupation que tu as quand t'es parent, c'est que ton enfant soit heureux, soit bien dans ses baskets et puis être épanoui. Donc, quand il a une différence comme l'homosexualité, qu'on voit plein de gens qui la montrent du doigt, quand un parent aime son enfant et qu'il n'est pas dans le rejet de l'homosexualité, etc., il peut être en revanche très inquiet en se disant « mon fils ou ma fille sera-t-il heureux, sera-t-elle heureuse ?» Ça, c'est une vraie angoisse pour certains parents. Si on peut montrer que oui, on peut être un peu différent par rapport à une sorte de norme de la société et évidemment être heureux, épanoui et avoir des enfants, par exemple, si jamais l'épanouissement passe par là pour beaucoup de gens, c'est formidable. Ça aura servi à quelque chose.
Puis en France, il y a l'injonction pour vivre heureux, vivons cachés. Oui. Nous, on s'inscrit dans une démarche assez différente. Au contraire, je pense qu'on peut vivre heureux et montrer son bonheur. Et je pense que le bonheur est communicatif.
Et ça rassure. C'est comme enfin tout à l'heure, vous le disiez, l'ignorance... Clairement, c'est le maître de la peur. Enfin, la peur est le maître de l'ignorance. Enfin, dans les deux sens, oui, ça marche, clairement.
Oui, exactement.
Et quand on véhicule, qu'on diffuse, qu'on se montre, tout simplement juste se montrer et ne pas se cacher, ben aujourd'hui, c'est déjà un acte militant.
Mais je comprends que les gens puissent être parfois, quand ils ne savent pas, puissent avoir des stéréotypes ou puissent être parfois fait monter la tête par des fake news qui tournent sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas, bon... Moi, le nombre de gens, par exemple, qui me disent « Ah bon, mais c'est deux femmes différentes, c'est une donneuse de vos sites et une mère porteuse », j'en le savent pas. Le nombre de gens qui me disent « Mais en fait, c'est des femmes pauvres que vous allez chercher dans des… » Je dis « Mais ben non, c'est pas ça du tout ». Voilà, il y a tout un tas de fake news qui ont vachement infusé dans la société. Et des gens, même s'ils ne sont pas à la base opposés à l'homoparentalité, ont ces clichés-là en tête. Donc, il faut déconstruire tous ces clichés pour montrer une certaine vérité aussi, pour rassurer.
Ouais.
Et on peut être optimiste pour la suite, parce qu'en France, il y a des nouveaux sondages qui sont plutôt assez encourageants.
Oui, il y a des sondages qui ont été faits en juin par l'ADFH, l'Association des familles homoparentales, qui disent que une majorité de Français est désormais favorable à la gestation pour autrui. 67% des Français sont favorables pour les couples hétérosexuels et 53% pour les couples homo. Ce qui signifie donc qu'une majorité de Français, et c'est la première fois qu'il y a plus de 50% pour les couples,
c'est majoritaire.
Voilà, que c'est majoritaire. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes plus précisément avec les différentes tranches d'âge, c'est que chez les jeunes, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Alors, il y a une fracture générationnelle, ce qu'on peut comprendre, hein, parce que on est évidemment sur quelque chose qui, par rapport à des personnes plus âgées, peut-être être un peu plus choquant, en tout cas, qui ne correspond pas à ce qu'ils connaissent de la société. Mais ça montre que pour les jeunes de demain, pour la société de demain, ces questions-là sont de plus en plus ouvertes. Donc, je pense qu'on va dans le bon sens, malgré... C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on entend beaucoup plus ceux qui gueulent le plus fort, ce sont les opposants, mais tu as une grosse majorité silencieuse qui, finalement, veut laisser les gens tranquilles, qui dit mais que les gens soient libres de faire ce qu'ils veulent. Et à partir du moment où ça ne rend personne malheureux, tout va bien.
C'est ça, ça concerne personne d'autre que nous finalement.
Mmh. Exactement, et dès lors que les enfants sont heureux, sont bien dans leur basket, et généralement, nous je vois bien, ça se passe hyper bien à la crèche, les parents sont top, mais c'est souvent, si ça se passe bien avec les enfants, c'est-à-dire que les parents ont bien fait le travail d'éducation aussi, parce que l'éducation à la différence, à la tolérance, ça s'apprend, hein, et c'est, je pense que nos familles sont bien placées pour le savoir, mais quand il y a un problème, il faut toujours se rappeler que le problème vient de celui qui montre du doigt, pas de celui qui est montré du doigt. Il ne faut jamais oublier ça.
Oui, c'est très important, effectivement. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire, et j'ai l'habitude de dire, qu'il faut éduquer les parents avant d'éduquer les enfants. Parce
c'est
que
tout
les
à
enfants
fait ça.
Sont plutôt très
parce
ouverts.
Que les enfants, ils sont hyper open. Quand tu leur expliques, finalement, tiens, il n'y a pas de maman, non, c'est deux papas, ils sont amoureux, il y a une dame qui les a aidés, et voilà, et ils ont intégré ça, ça fait partie de leur univers. Et voilà, et tout va bien.
Oui, puis voilà, vraiment leur dire la vérité, pas chercher à vouloir romancer quelque chose, inventer quelque chose pour que ce soit peut-être plus acceptable pour l'enfant L'enfant, il pose une question de manière innocente. Il faut, oui, lui répondre. Faut lui répondre avec franchise. La curiosité n'est pas un vilain défaut. Il y a aussi une curiosité parfois saine et il faut y répondre de manière franche.
Et d'ailleurs, c'est un peu ça l'objectif du livre pour les adultes, pour le coup. Mais là où t'as raison, c'est que poser des questions, même des questions qui peuvent nous sembler un peu évidente parce que nous on a la tête dedans, on sait.
Parfois même un peu dérangeante.
Ou parfois un peu dérangeante, c'est très bien. Bah, oui. Dès lors qu'il n'y a pas d'intention malveillante derrière, mais poser des questions, c'est très sain, c'est pour obtenir des réponses et ça permet de s'expliquer. Donc moi je trouve ça très bien. Moi il m'arrive de discuter avec des gens sur les réseaux sociaux, un peu trop aux yeux de Ghislain qui trouve que je suis un peu trop sur mon Twitter toute la journée, mais il a pas tort. Parfois tu peux échanger, c'est hyper intéressant. Et les gens, tu peux les faire évoluer aussi, ou parfois pas toujours, mais au moins on se parle et c'est bien, c'est comme ça qu'on avance.
C'est la réflexion. Façon, hein. Ouais, tu
peux pas en ne parlant qu'avec des gens qui sont d'accord avec toi, parce que sinon ça n'avance pas grand chose.
Non, effectivement, tu n'as plus grand monde à convaincre.
Même si c'était très agréable de parler avec toi, qui est plutôt d'accord avec nous, mais peut-être que tous ceux qui vont nous écouter vont découvrir des choses, et c'est à ça qu'il sert ce livre. L'idée, c'est pas, moi j'ai pas fait ce livre. Parfois, il y a des gens qui me posent des questions en disant ah bah voilà, hein, c'est super, hein, en fait des livres pour faire parler de vous, pour gagner de l'argent, etc. Ce genre de livre, de témoignage, ça se vend pas des milliers d'exemplaires, la question n'est pas là, mais ça va permettre d'en parler dans plein de médias, y compris dans des médias ultra populaires, des médias plus ciblés comme le tien, mais aussi des médias ultra populaires, donc ça va mettre le sujet sur la table, et c'est comme ça qu'on avance.
Et puis certains nous disent, c'est courageux d'en parler, de parler de votre parcours de GPA, de votre désir de parentalité, mais moi, là, depuis qu'on a sorti le livre, ce que je trouve aussi courageux, c'est tous ces médias qui acceptent de nous donner la parole.
Des médias qui ne soient pas communautaires.
Des médias classiques, de la presse écrite féminine, des émissions de télévision. Et puis aussi, tous ces nouveaux médias, comme ton podcast, c'est hyper important. C'est l'ensemble des acteurs du monde médiatique, même si professionnellement, on en fait aussi partie. Mais les médias ont aussi ce rôle-là de donner la parole, et pas qu'aux anti-GPA, hein, je m'entends.
Oui.
il faut que la parole puisse être libre à partir du moment où elle est sereine et qu'elle serve le débat.
Oui, et que tout le monde soit entendu surtout. Il ne faut pas en oublier. C'est trop important. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup à tous les deux de m'avoir accordé cet entretien. Surtout, je vous remercie beaucoup de nous donner cette visibilité parce que vous en avez le pouvoir et nous, les anonymes, entre guillemets, on a un peu moins le pouvoir pour ce genre de choses. Donc, c'est important que vous aussi, vous puissiez donner de la voix et expliquer quels sont nos parcours et quels sont vos parcours à vous. Je vous dis à très bientôt et une fois de plus, merci.
Merci, Constance.
Merci à toi, à bientôt.
À bientôt.
Et merci à tous ceux qui ont écouté. Continuez à prêcher la bonne parole.
Je dois vous avouer que j'étais assez impressionnée par cet épisode, sûrement parce que ce n'est pas mon métier et que c'est le leur. Mais Christophe et Ghislain ont su me mettre à l'aise et ont répondu à toutes mes questions sans aucune condition. Je vous rappelle la sortie de leur livre « Fils à papa » aux éditions Plon, que vous pourrez trouver dans toutes les bonnes librairies et peut-être même en ligne. Si cet épisode vous a plu et que vous pensez qu'il peut aider, notamment particulièrement votre entourage ou peut-être même des gens moins proches, n'hésitez pas à le partager et à faire découvrir le podcast. Moi, je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast, pour que vous me délivriez vos impressions suite à cet épisode et que nous commencions de nouvelles discussions. Je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les Enfants Vont Bien. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. Thank you.
left behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. I'll hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.